Bienvenue à tous pour cet événement Music Tech qu'on essaye de faire tous les mois. Je vous présente donc Alex Monville et Manon, et j'ai perdu ton nom. Manon Chevalier, pardon. Aujourd'hui, on va parler du live et de la génération Z et du défi que c'est de les amener dans les salles finalement, et notamment dans les petites salles. Donc on va parler usage de cette génération, comment on peut les attirer et aussi toutes les spécificités qu'il y aura pour les attirer. On a notamment Loïc Monville, Loïc Riom, pardon, qui est en visio avec nous et qui est un chercheur qui a travaillé pour le CNM sur ce sujet de la génération Z et du live. Et on a encore un peu de musique en fond sonore, je ne sais pas si on peut la baisser un petit peu. Merci Romain. Déjà, on va faire un rapide tour de table. Je veux bien que vous vous présentiez chacun. Manon, si tu peux commencer.
Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Manon Chevalier. Je suis programmatrice et chargée d'accompagnement à la Cave aux Poètes, qui est une salle de concert de 200 places à Roubaix, qui fait donc de la diffusion de concerts avec une cinquantaine de concerts par an dans les murs de la Cave aux Poètes et aussi pas mal hors les murs. Parce que comme son nom l'indique, la cave, c'est une cave, donc très basse de plafond avec pas mal de contraintes techniques. Et je m'occupe aussi de l'accompagnement artistique et sur la diffusion de la Cave aux Poètes, donc une cinquantaine de concerts, musique actuelle dans sa diversité, rock, pop, rap, électro. Donc celle qui fait aussi de l'accompagnement, on accompagne plusieurs artistes chaque année vers la professionnalisation. Et aussi une activité d'action culturelle sur le territoire avec différentes personnes, différentes structures locales, roubaisiennes et métropolitaines.
Alex.
Bonjour. Moi, je m'appelle Alex Monville. Je suis directeur d'un lieu de musique actuelle qui s'appelle La Biscuiterie, qui est à Château-Thierry, au sud du sud de la région des Hauts-de-France. Qui est un lieu dans une ancienne friche industrielle où on fait de la diffusion, de l'accompagnement, beaucoup d'actions culturelles, une moitié de concerts, non, même pas, j'abuse, un tiers de concerts en salle et deux tiers hors les murs à peu près. Voilà, pour brièvement résumer l'activité. Et puis j'ai aussi d'autres activités, plutôt d'accompagnement d'artistes quand j'ai du temps libre et de production de disques aussi.
Loïc, si tu peux te présenter.
Oui. Bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle Loïc Riom, je suis sociologue et je travaille à l'Université de Lausanne en Suisse. Et je m'intéresse à la musique et à l'industrie musicale depuis bientôt une petite dizaine d'années. J'ai travaillé notamment sur l'économie du concert et sur différents enjeux, par exemple de soutien public et de subventionnement des musiques pop en Suisse romande. Et puis pour le CNM, j'ai été mandaté pour faire ce texte qui est entre une synthèse de connaissances et un rapport de recherche sur le rapport qu'entretiennent d'une part les jeunes de la Gen Z, on en parlera, et puis les mondes du concert. Voilà. Et merci de m'accueillir par Zoom. La conciliation de la vie professionnelle avec la vie familiale n'étant pas toujours facile, merci d'avoir accepté cette possibilité.
Pas de problème, Loïc. Alors justement, je pense qu'on va partir de cette étude, parce que c'est pour ça qu'à la Pleine Image, on a eu envie de construire cette table ronde. Donc on a lu cette étude, on a aussi vu passer le baromètre du CNM à l'automne 2023, qui a un peu apporté quelques chiffres. Donc déjà, pour commencer un peu cette discussion, je vais rappeler quelques infos qu'on retrouve dans ce baromètre. Et Loïc, tu pourras, toi, nous apporter un peu les aspects plutôt qualitatifs que tu as repérés, notamment lors des entretiens que tu as menés avec des jeunes, justement. Ce que nous apprend cette étude, c'est que même si on pense que la pratique du concert n'est plus associée à une pratique jeune, comme elle pouvait l'être dans les années 70, on peut quand même relativiser ça, puisque les jeunes vont quand même au concert plus que le reste des catégories d'âge. Ça, c'est quelque chose qui ressort et qui permet un peu de relativiser le pessimisme ambiant sur ce sujet, qui montre bien sûr que les jeunes déclarent que la musique a une place particulière dans leur vie, justement, sur cette par rapport à des catégories d'âge plus âgées, mais aussi que la musique, l'écoute de la musique va plus passer par les jeux vidéo, le streaming, que par le concert. Donc on va en parler ce soir. Est-ce que, Loïc, pour introduire le sujet, tu pourrais déjà nous dire ce qu'est la génération Z et quelles sont les caractéristiques au regard de la musique live, en fait?
Oui, alors bon, là, je mettrai déjà des guillemets à génération Z parce que c'est avant tout un concept qui est beaucoup manipulé par les milieux du marketing, notamment pour vendre un certain nombre de transformations dans les pratiques. C'est pas un concept sociologique et du coup professionnellement comme ça je me l'approprierai pas tout à fait. Ce qui m'a plus intéressé, c'est justement penser la question du rapport des jeunes à la musique et puis de aussi de prendre un peu de distance par rapport à ces catégories là. Mais bon, pour le dire quand même, la Gen Z en général, c'est considérés comme les gens qui sont nés entre 97 et 2010, donc les 14-27 ans, ce qui fait déjà des gens qui, voilà, 27 ans, commencent aussi à être bien entrés dans la vie adulte. Et puis, alors, pour un petit mot aussi sur les chiffres que tu citais et qui rendent la question un peu compliquée de savoir s'il y a vraiment un désintérêt de cette génération-là par rapport au live, c'est qu'en fait, les gens qui avancent cette hypothèse se basent beaucoup sur... alors, je vais faire un petit point de méthodologie statistique, comme ça je... Je casse l'ambiance de la soirée, mais voilà, comme ça sera fait. C'est que la plupart de ces chiffres, ils sont produits dans des enquêtes qu'on appelle en population générale, c'est-à-dire qu'on regarde sur l'ensemble de la population en faisant des sondages, ce qui fait qu'en fait, notamment le fait que, je pense, le public des concerts est notamment constitué de gens qui vont beaucoup à des concerts, fait que ça disparaît un petit peu dans ces populations-là. Et que là, il y a des chiffres qui seraient plus intéressants, mais auxquels je n'ai pas eu accès, mais que vous avez accès, c'est-à-dire de regarder salle par salle la composition du public et voir dans quel cas, en fait, certaines salles seraient ou ne seraient pas désaffectées par les jeunes. Alors, pour répondre maintenant à la question, moi, ce qui m'a intéressé, c'est aussi de saisir la question de pourquoi cette question-là pose des problèmes, à quel moment, en fait, dans le milieu, on commence à dire qu'il y a peut-être une question qui est à soulever sur ce point-là, pour essayer de comprendre aussi un certain nombre de relations, disons, entre ce groupe d'âge et le milieu du concert, et de l'envisager pas seulement comme un changement de pratique, mais aussi sur le fait que ces jeunes se retrouvent à aller dans des concerts dans un monde qui est un peu différent de celui dans lequel on allait il y a 30-40 ans. Alors on peut citer plein de transformations de l'industrie du live, mais simplement pour dire que aller au concert...
Du point de vue des usages de la génération Z, qu'est-ce que tu as enseigné cette étude? Qu'est-ce qui t'a étonné presque aussi justement par rapport à toutes ces idées préconçues qu'on pourrait avoir sur la génération Z?
Déjà qu'il y a effectivement un attachement au concert, notamment de la part des personnes qui sont le plus consommatrices de musique. Et puis peut-être un point qui me paraît important, que je savais déjà un peu, mais que les entretiens qui ont été menés par le CNM ont permis de confirmer de manière très claire, c'est que les pratiques numériques autour du live, comme regarder des vidéos de captation de concerts ou éventuellement des live streams, c'est pas du tout quelque chose qui vient en substitution du fait de se rendre à un concert, mais qui au contraire vient l'accompagner, approfondir cette expérience, l'équiper, la déployer. Donc l'idée qu'il y aurait comme ça des modes de consommation de la musique live qui viendraient se remplacer les uns après les autres, comme ça un peu par période, je pense que c'est assez faux. C'est qu'il faut plutôt comprendre et saisir comment ces pratiques-là se superposent les unes aux autres et s'interconnectent.
Ok. Moi, ce qui m'a marqué, donc il y a plein de choses que tu remontes dans cette étude, mais il y a deux points que j'ai trouvé intéressants, notamment le prix des billets, qui est quand même un gros facteur. On a quand même dans les témoignages une paupérisation qui augmente, et notamment tu constates que les enfants de cadres vont bien plus au concert que les enfants d'ouvriers, évidemment. Joël-Alex acquiescer. Et aussi, le Covid, j'ai trouvé ça intéressant, qui montrait qu'en fait, le Covid, ça avait quand même affecté toute une génération qui avait peut-être aussi loupé le coche de la sociabilisation par les sorties et par le live. Et ça, on peut le constater dans d'autres choses que le concert. On peut aussi le constater dans la fréquentation des salles de cinéma, enfin voilà, ce genre de choses. Est-ce que, voilà, est-ce que c'est quelque chose qui... où tu pourrais ajouter voilà, ton analyse, parce que le Covid semble avoir aussi créé une forme d'anxiété, de cocooning généralisé qui empêche aussi peut-être en un sens les jeunes de sortir. Et Alex, d'ailleurs, tu peux donner ton contrepoint, je vois pas forcément d'accord.
Non, moi c'était plus une remarque sur l'aspect économique qui empêche de sortir. La remarque que je me faisais, c'est que quand on n'a pas de sous, on a quand même des envies de riches. C'est-à-dire des choses qui ne sont pas accessibles, en fait. On a aussi envie d'aller voir les concerts qui coûtent 80 balles et tout le monde veut voir Beyoncé, même en étant pauvre. C'est pas pour ça qu'on... Quand on est pauvre, on a envie d'aller voir un concert à 5 balles chez moi.
Et c'est ce qui ressort, il me semble, aussi dans l'étude du CNM, où on voit que les jeunes préfèrent aller à un seul concert à 80 euros le billet, plutôt que de s'en faire une dizaine à moins de 10 euros.
Oui, c'est ce que je disais quand le monde du concert a beaucoup changé. C'est que, voilà, justement, il y a eu le développement de ces grands circuits de stades qui se sont renforcés, comme vous le savez tous, mais l'industrie de la musique s'est beaucoup tournée vers le live, qui a été vraiment maintenant investi par des grands groupes comme il ne l'était pas avant. Et il faut prendre en compte cet aspect relationnel et que ces jeunes se retrouvent du coup à faire leurs premières expériences au concert dans un environnement qui est très différent de celui d'il y a 20, 30 ou 50 ans. Ou aussi des fois on peut se poser la question si les concerts sont vraiment organisés pour eux ou s'ils ne visent pas un public justement plus âgé, plus aisé financièrement aussi. Et du coup posant des questions d'accès et de choix et d'arbitrage entre les différents événements auxquels on peut se rendre. Et peut-être juste pour finir sur l'histoire du Covid, je sais pas, j'imagine que, alors peut-être que vous avez des éléments nouveaux, il y avait un certain nombre de préoccupations là autour, notamment l'idée qu'il y aurait une flemme à sortir. Quand on a mené des discussions avec les professionnels dans le cadre de ce mandat, c'était il y a plus d'un an maintenant, donc on était encore un peu dedans. Donc je pense qu'il faut aussi voir un peu sur le moyen long terme ce qui se passe, confirmer ou pas ces effets-là.
Ok. Par rapport à ce qui vient d'être dit, Alex, Manon, est-ce que vous avez des constats que vous partagez en tant que directeur de salle ou programmatrice ?
Sur le Covid, c'est vrai qu'on a tous et toutes un peu eu cette sensation, mais sans avoir trop d'éléments concrets pour savoir ce qui était lié à ça ou pas. Et sur cet aspect, je pense que c'est pas propre à une génération et qu'il y a eu quand même un phénomène un peu global où finalement même des personnes qui étaient plutôt habituées des concerts ont aussi eu un peu une perte d'habitude et de la pratique du concert qui s'est associée justement à cette inflation qui est arrivée peu de temps après. Où donc la perte d'habitude plus la question des revenus plus la question de la mobilité aussi, je pense, qui est un peu liée, ça a fait un espèce de plus cocktail, gros phénomène. Après, c'est vrai qu'on a eu pas mal ces discussions-là sur cette question d'habitude qui se crée. Là, je pense que ça fait 2-3 ans et que les choses se remettent un petit peu en place, mais je ne suis pas sûre que ce soit un élément... centrale là aujourd'hui, même si effectivement on n'a pas vraiment de chiffres précis pour le vérifier.
Sur notre expérience post-Covid, en fait, nous, l'analyse qu'on s'est faite collectivement, c'est de se dire qu'on retrouvait plein de gens dehors et par contre qu'on ne les retrouvait pas en salle. Et du coup, ça nous a beaucoup interrogés et en fait, au bout d'une année comme ça, on a plutôt modifié le format des concerts avec l'hypothèse de se dire que les gens ont envie de sortir, ils ont envie d'être ensemble, ils ont envie de vivre une aventure collective. C'est pas propre à la génération Z, hein, pour le coup. Et on a l'hypothèse de dire que nos formats sont has-been, que le 20h, 23h30, voire minuit, en fait, ça correspond pas du tout à l'attente des gens. Donc on est plutôt sur une tendance à étirer le temps et à rajouter des éléments de je sais pas comment on peut appeler ça, de convivialité, que les gens puissent, en fait, que l'artiste et le concert ne soient plus l'objet central de la sortie, que ça soit un des éléments de la sortie. En fait, on est plutôt là-dessus.
Et voilà. Alors concrètement, tu aurais un exemple de
Concrètement, c'est que tu viens dans un espace à 19h, tu vas repartir à 2h. Dedans, tu vas voir un ou deux concerts, ou pas les voir d'ailleurs, tu peux rester au bar et boire des coups. Certains vont rester à manger, d'autres vont aller faire, je sais pas, se faire tatouer, les autres vont aller se faire coiffer, il va y avoir un cours de danse au milieu. Si possible, on va essayer de faire ça avec des gens qui sont un peu plus pointus que nous, quelle que soit la soirée. Pour amener aussi une dynamique, et on a l'impression, ça reste une impression, que en fait, les gens sont plutôt preneurs de ça. Ça me rappelle ce que me disaient mes gamins, qui me disaient « tes concerts, c'est cool, mais après, tu nous jettes dehors à 23h30, nous, le samedi soir, quand même, il reste 23h30, 7h du mat, qu'est-ce qu'on fout, quoi ?»
Ok, c'est la question du sens des lieux, que vous avez un peu remis à plat pour voir comment répondre à cette question. Quand on avait échangé ensemble, tu m'avais aussi parlé, et on le voit hein, dans l'étude du CNM, du ratage qu'on pourrait dire historique du rap et de l'électro et le saut générationnel que ça crée pour pas mal de programmateurs qui sont un peu perdus. C'est un peu un sujet qui fâche, mais je trouve ça important d'en parler aussi. C'est comment se tenir au courant des goûts à la fois de cette génération et puis comment programmer peut-être des choses qu'on n'écoute pas nous-mêmes, en fait. Enfin, c'est la problématique. Enfin, peut-être que vous écoutez, d'ailleurs, je m'avance beaucoup, là, mais...
Peut-être pour rebondir sur ce que tu disais avant, effectivement, sur la question de créer des expériences un peu différentes autour du concert, nous, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, mais plutôt, parfois, sur un public plus adulte, justement. On a un festival dans les lieux de patrimoine qui s'appelle We Loft Music, où... Il y a à la fois la musique et la découverte des lieux de patrimoine, donc c'est une expérience. Et effectivement, là, on voit qu'il y a le plus, c'est qu'on ne vient pas juste pour un concert, ce qui fonctionne pour des concerts de découverte. En revanche, pour des... à l'inverse, parfois, en tout cas sur le rap, ce qu'on observe, c'est qu'il y a vraiment... On vient dans un concert pour voir l'artiste, et finalement, pas tant parce qu'il y a un attachement au lieu ou parce qu'il y a une thématique. Et c'est là, pour le coup, on est vraiment dans une pratique du concert parce que l'artiste est ce qui fait venir. Et sur l'électro, là, je te rejoins sur l'aspect format. Où nous, après, on est sur des territoires effectivement très différents aussi. Nous, on est sur une métropole... la métropole lilloise, où il y a assez peu d'offres tardives, finalement, à part des boîtes de nuit avec des DJ sets, voilà. Et où, par contre, sur des soirées électroniques un peu plus alternatives, il y a très peu de choses et très peu de lieux. Et comme à Roubaix, on a des possibilités d'ouverture tardive, et que nous, la Cave aux Poètes, on n'a pas d'habitation autour, ce qui est généralement le problème dans les grandes villes, on arrive à avoir des autorisations, et là, c'est... à la fois l'esthétique musicale, donc électro, qui va intéresser, mais aussi le format, qui est un format qui existe peu et qui permet voilà, de rentrer tard et de profiter d'une soirée. Et pour rebondir sur ce que tu disais, sur la musique électronique, moi j'en écoute, mais je ne suis pas experte. Le choix qu'on a fait à la CAF, c'est de s'appuyer sur des gens qui sont experts, c'est-à-dire de travailler avec des collectifs. Donc déjà parce qu'il y a une expertise de connaissances esthétiques des musiques électroniques, mais aussi parce que c'est des collectifs qui ont déjà des publics et qui fédèrent déjà des communautés de publics sur un format qui était nouveau pour nous et qui a permis du coup de créer un engouement autour de ce concept-là. T'étais pas d'accord avec moi sur le rap.
Si, je voulais revenir quand même sur quelque chose à propos du rap, c'est que, en fait, quand je dis qu'on a raté le coche, c'est que moi, je viens pas de la musique, et que, en fait, dans mon autre métier avant, j'étais plutôt éduqué travailleur social, et qu'on a récupéré, enfin, tous les gens qui venaient de l'animation socio-culturelle, c'est eux qui ont fait le rap français, parce qu'on n'en voulait pas, enfin, personne n'en voulait, personne n'en a voulu, que je me souviens de conversations qui sont pas si vieilles, qui ont 10 ans, avec des gens, par exemple, de chez Yuma, qui sont des gros producteurs de rap, et où ils me disaient, c'est quand même fou, t'es quand même le seul à faire jouer ou à me solliciter pour Section d'Assaut, on est le plus gros vendeur français, personne ne veut de nous, pas un festival ne m'a appelé, résultat, je suis obligé de produire. En fait, il y a 10 ans, on en était là. Donc maintenant, tout le monde a envie, et tout le monde... Tout le monde ouvre grand les portes, je dirais, des fois contraint et forcé, parce qu'il faut quand même faire de la billette, et pas forcément avec une compréhension très forte de l'esthétique. D'autant que c'est une esthétique qui n'est pas née par le spectacle vivant. En fait, il n'y a pas de corrélation entre cette musique et le concert, alors qu'on est les rockers et les boomers, enfin bref, nous tous, quoi. On est plutôt sur ce prisme-là, qui n'est pas le prisme du rap. Et je trouve que c'est bien de rappeler que si on regarde bien, on prend un Booba solo, son premier concert, il n'a pas fait un bar, et puis après la tournée des smacks, il a fait des disques Bercy. Et quand on entend parler Sofiane, par exemple, qui dit à la fin de sa première tournée que, bon, en fait, lui, il ne voit pas trop le truc, quoi, d'aller faire 20 dates pour à chaque fois 400 personnes, et qu'au même moment, il fait le cercle, et qu'il fait, en gros, ce que vous faites là, hein, il fait un live stream et il fait des dizaines de milliers de personnes. En fait, il y a un ratio qui, pour cette génération, n'est pas logique. C'est-à-dire, je vais aller toucher une audience en une journée de travail, qui n'est pas... Enfin, c'est un gros boulot, mais c'est un autre travail. Et en fait, cette idée que le live est indispensable...
Et le spectateur virtuel, il est aussi...
Il existe aussi.
Il a autant de valeur pour l'artiste que s'il était en face de lui dans la salle.
J'ai envie de dire, économiquement, il est peut-être même plus rentable.
Ouais.
Si on fait le ratio entre le temps pour faire cette émission et le nombre de spectateurs et de streams derrière que ça va générer, enfin voilà, enfin, il y a plein de choses qui sont des logiques qui frottent, à mon sens.
Est-ce que ce n'est pas aussi une redéfinition de ce qui est aller à un concert et que c'est très lié à la notion de communauté ? J'ai l'impression, dans toutes les expériences qui fonctionnent, que la communauté, elle est vraiment au centre, notamment l'idée... Alors, je lisais et j'écoutais la convention MAMA où tu as intervenu, Alex, qui disait que, par exemple, les jeunes disaient qu'ils allaient donner de la force à un artiste, parce qu'il y a vraiment un rapport avec l'artiste où on s'en sent proche, et il n'y a plus cette mise un peu sur piédestal, ce genre de choses. Je voyais aussi que la déception qui est partagée en live, elle est très prescriptrice. Dire que tel artiste est mauvais en live, ça va être un direct no-go pour un jeune, parce qu'il va dire bah, ça coûte cher. Il faut aussi penser, on revient à la question du coût, mais le déplacement, il faut manger, il faut venir, etc. Non, j'entends même un inconnu se plaindre d'un concert en disant c'était du playback, etc. Ou même pas du playback, juste c'était moins bon qu'en studio. Eh bien, on n'y vient plus, quoi. Et quelque chose qui m'a frappé, puis je vous laisse rebondir sur ce que je dis. Et Loïc, n'hésite pas non plus à intervenir, même si tu ne nous vois pas, nous on te voit. Que la notion de surprise, elle avait l'air d'être assez importante aussi dans le live pour attirer les jeunes. Et que notamment, le spectateur ne voulait pas se déplacer pour entendre moins bien que l'album studio, en fait. Et que donc il y a un côté un peu rude de se dire, moi je veux me déplacer, mais je veux vivre...
Alors moi je dirais voir.
Ouais.
Voir, plus qu'entendre. En fait,
ouais.
Je sais, cet été j'étais au... à Charleville, là, j'avais jamais été, il y avait Zola qui jouait, il y avait Christine and the Queens et je sais pas quoi. Et en fait, je me faisais la remarque, c'est qu'il n'y a pas un seul de ces artistes qui fait le concert en regardant en face de lui. En fait, il va regarder latéralement les caméras, les caméras qui envoient une image sur des écrans.
D'accord.
Que le public regarde tout en le même public commentant ce qui est en train de se passer sur l'écran. Et en fait, les énormes concerts, c'est cette espèce de machin. Enfin, moi, c'est pas ce que j'ai connu, par exemple, qui était un truc très frontal, très, très, je veux voir Joe Strummer qui me rentre dedans, quoi.
Mais du coup...
Et on n'est plus dans la même chose.
Et c'est pas la communication avec le public qui est sur place, alors ça va être une communication a posteriori avec les gens qui les regarderont. Donc, est-ce que...
Alors, moi, je suis vieux, j'y comprends pas tout. Mais je vois qu'il se passe quelque chose qui est de l'ordre du triangle et pas du facial. Et que quelque part, ce type de gros spectacles très capitalistes sont très adaptés, eux, à la Gen Z, comme vous diriez. Et je trouvais ça assez marrant. Je me dis, c'est vrai que s'ils viennent dans ma salle, ils vont être déçus, quoi. Il n'y a pas d'écran, ça ne va pas être le même d'elle. Et je ne peux pas jouer dans ce game.
Mais la communion, elle peut être faite différemment avec des moyens de smack, j'imagine. Manon, tu as des exemples ?
Nous, pour le coup, à la cave, c'est... La qualité d'écoute est ce qu'elle est à la cave, c'est une cave, donc je pense qu'en termes de, si on compare une écoute studio super bien produite à un son live à la cave, on n'est quand même pas sur la même chose, même si le son est très bien à la cave, c'est quand même assez différent. Mais on a quand même quelque chose que le public apprécie, c'est qu'on a une très grande proximité avec les artistes parce qu'on n'a pas de crash, enfin, de crash barrière. L'artiste est quasiment au niveau du public. Et nous, pour le coup, c'est une expérience que le public adore, même si au début, ils sont un peu décontenancés parce que quand ils sont au fond et que c'est complet, on ne voit pas hyper bien. Mais par contre, le côté expérience commune et pogo et l'artiste qui est à 20 cm et l'artiste même qui vient de faire des pogo avec le public, c'est une expérience live qui est hyper appréciée et qui est de l'ordre de la proximité. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que pour comparer des concerts de rock et des concerts de rap, il y a une ambiance beaucoup plus survoltée et beaucoup plus joyeuse et conviviale sur un concert de rap que sur un concert de rock aujourd'hui, en tout cas à la cave ou dans les smacks que je...
Et que tu analyses par rapport au public en face ou par rapport au code des artistes qui vont pas hésiter justement à se mêler au public et à communier
Je pense que ça fait pas si longtemps que ça que je vois des concerts de rap, mais en tout cas il y a un code dans le concert de rap d'ambiancer la foule qui est super, super important et je pense que justement on parlait tout à l'heure de l'espèce de prescription de le concert est bien, le concert est pas bien. Je pense que c'est un facteur d'appréciation d'un concert qui est super important, c'est est-ce que il a retourné la salle quoi. Et du coup sur cet aspect grosse scène de festival, c'est je pense peut-être plus simple de retourner la foule quand il y a des milliers de personnes. C'est pas forcément simple à faire non plus, voilà, ça dépend un petit peu, mais en tout cas, le facteur ambiance et proximité, c'est quelque chose qui est apprécié et qui, en fait, n'est pas facile à créer, pas forcément du fait du public, mais je dirais, et là je te rejoins Alex, du fait des artistes, parce qu'il n'y a justement pas ce circuit d'évolution comme il est pensé dans le rock, c'est-à-dire, ouais, voilà, le café du coin, puis la première partie dans la petite smack, puis la première partie dans la grosse smack, puis la tête d'affiche, etc. Où là, effectivement, il y a des artistes qui ne veulent pas jouer dans des salles de tant de place, parce que dans la stratégie, l'idée, c'est d'arriver direct avec une grosse salle, avec une grosse jauge, pour montrer qu'on est présent et qu'on pèse un peu dans le game, quoi.
Non, mais parce que pour une partie de cette scène, il y a une notion spéculative, en fait. C'est-à-dire que si tu joues en deçà d'une certaine jauge, tu vas envoyer une image qui va faire baisser ta valeur. En fait, c'est très, très capitaliste et c'est pensé comme tel. En fait, c'est des levées de fonds, finalement. Tu ne peux faire une levée de fonds, tu ne peux péter la banque, comme je l'ai entendu il n'y a pas très longtemps, que s'il y a une croyance dans ta valeur marchande. Donc c'est marrant parce que je vois des réactions qui sont un peu tout vent debout contre ça, mais en fait, tout ça, ça dit quand même un truc sur le... Je vais le dire comme je le pense, hein, je vais gagner du temps, sur un peu la victoire du marché pour le moment. En fait, le type de spectacle, le fait qu'on n'arrive pas à se faire entendre, c'est que le marché pour l'instant a gagné et c'est ces codes qui ont pris la main. Et nous on vient avec nos codes de un peu babacool et on se fait laminer pour l'instant.
Après, peut-être pour nuancer un tout petit peu, je sais pas si c'est très avéré ou pas, mais j'ai la sensation quand même que comme le marché est, comme tu dis, exponentiel, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de plus en plus d'artistes et que ça devient très compliqué de tirer son épingle du jeu sur cette logique spéculative. À l'inverse, il y a une tendance qui est, bon, qui n'est pas globale pour l'instant, mais qui est presque plutôt à l'inverse, de dire en fait, on va aller sur des tout petits lieux pour créer le buzz et que ce soit la surprise, le complet, etc. Nous, on a eu le cas par exemple avec la tournée fantôme de L'Homme Pâle, où, alors bon, certes, c'était pour vendre des zéniths après. Mais la stratégie était celle-ci. Après, il y a aussi d'autres artistes qui commencent à avoir des stratégies de on fait pas de live, on garde le mystère pendant des mois et des mois et on sort une tournée dans des tout petits lieux qui va être sold out en 30 minutes et là, du coup, on va pouvoir dire on a fait du sold out, quoi, plutôt que des salles à 900 ou 1000 qu'on va avoir du mal à remplir.
Loïc, t'as peut-être quelque chose à ajouter ? Je te vois acquiescer. Ça t'inspire quoi ?
Non, mais c'est... C'était très bien dit. Je pense qu'effectivement, il faut complètement dénaturaliser le rapport entre musique et live et que ça ne va pas de soi de jouer au concert et qu'il y a plusieurs manières différentes de jouer au concert. La question, c'est comment on arrive justement à faire des passerelles et des lieux qui se sont construits plutôt autour d'esthétiques rock puissent s'acclimater et à quelles conditions? Parce que je pense qu'il y a aussi des choses auxquelles ces acteurs et ces actrices du secteur tiennent, hein, et c'est important qu'ils y tiennent aussi, hein, quand on parlait justement de rapport au marché. Je voulais juste mentionner encore qu'en plus, il y a certaines musiques qui sont parfois très populaires dans certains milieux jeunes et qui n'ont pas du tout d'existence live. Notamment dans les discussions, on avait évoqué le cas de l'Afrobeats ou du coupé décalé, qui sont des musiques, voilà, vraiment typiques boîte de nuit ou de choses comme ça. Donc c'est se rendre compte que ce continent-là, d'une certaine manière, existe. Et puis ne pas l'oublier. Après, la question, et ça, moi, je me garderais bien d'avoir des recettes toutes faites, hein, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui font au quotidien des choses beaucoup plus importantes que tout ce que je pourrais dire ici, sur comment on construit ces ponts, comment un lien qui allait de soi, parce que toute cette génération de salles de concert, des SMAC, est née aussi de mouvements de jeunes, et comment maintenant on peut recréer des liens. Je ne sais pas, il y a plusieurs initiatives que je trouve intéressantes de ce côté-là, d'avoir des. Ben, on parlait de, par exemple, programmer avec des collectifs, d'aller chercher d'autres types d'expertise. Il y a peut-être aussi des formes de participation culturelle, en décentrant aussi un peu la figure du programmateur, sûr de son goût, qui choisit sa programmation pour faire justement entrer un peu d'autres points de vue, d'autres esthétiques et d'autres formes d'expertise.
Comment, Alex?
Non, ben, en fait, c'est un peu l'exercice des droits culturels, enfin, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est que, en fait, les lieux, ils ont continué à grandir indépendamment des gens qui étaient autour. C'est ce qu'on remarque un petit peu partout, en fait. Il y a une espèce de captation et qui est assez logique, parce que les gens qui ont créé ces lieux, et bravo, merci à eux, ils étaient assez jeunes et ils vont. Enfin, voilà, on verra quand cette génération va partir, mais. Il y a un décalage, c'est-à-dire que la population autour des lieux, elle a changé, mais la programmation des lieux n'a pas changé. Si on va dans certaines villes, on va prendre la banlieue parisienne parce que je connais bien, il y a des endroits, par exemple, si on prend le. Voilà, un truc qui m'a toujours fait rire, c'est que la scène de musique actuelle emblématique de la Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire le département, un des plus complexes quand même de France pour des tas de raisons, c'est le Triton, qui est une scène de musique actuelle jazz, qui ne joue que du jazz et qui est au Lila, c'est-à-dire une des villes les plus aisées de la Seine-Saint-Denis. Voilà, je trouve qu'en termes de message, ça dit un peu tout ce qu'il y a à dire sur le hors-sol, quoi.
Ouais, on en est. Les bras nous en tombent. Je voulais aussi qu'on aborde la question, que là, on vient de voir en fait ce que voulait la Gen Z et puis aussi dans quelle mesure parfois on est à côté de la plaque, mais aussi les choses que vous mettiez en place à la cave aux poètes et à la biscuiterie. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est de dire, ben, ok, donc maintenant on sait ce que veut la Gen Z, en tout cas on s'en rapproche, mais comment, oui, je suis d'accord, c'est un vœu pieux, mais on a qu'une heure malheureusement, donc on va accélérer sur ce sujet. Mais je me demandais aussi comment on pouvait les atteindre, et notamment il y a toute la question de la médiatisation qui est extrêmement complexe parce que. Pour tout un tas de raisons, déjà, voilà, ce qu'on disait sur les communautés, à quel point finalement maintenant les jeunes, pour simplifier, ne sont plus vraiment fidèles à des salles de spectacle, mais sont plutôt à suivre des artistes, et donc c'est plus compliqué encore, visiblement, pour les salles de spectacle de médiatiser leur offre. Voilà, mais ma question, qui est déjà très longue, c'est par quels moyens on existe sur les réseaux sociaux, ce qui est quand même le gros média, enfin le gros vecteur de communication quand on est une petite et moyenne salle de spectacle. Quelles sont vos actions en ce terme? Je sais que Manon, à la Cave aux Poètes, vous avez mis en place pas mal de petites expérimentations.
Moi, je vais parler au nom de ma collègue Juliette, du coup, qui est chargée de communication. Mais effectivement, la présence sur les réseaux sociaux, ça a été un enjeu fort. Déjà, le premier réseau social qui a été fortement développé ces dernières années, c'est Instagram. qui est indispensable et qui est maintenant presque plus important que, enfin, c'est sûr même, plus important que Facebook, en tout cas dans les actions de communication. Au-delà de l'aspect publication, post, story, etc., il y a un langage qui est différent, qui est utilisé sur Instagram, qui est beaucoup plus direct, beaucoup plus dans la proximité, beaucoup plus, enfin, beaucoup moins institutionnel. Et au-delà de ça, l'intérêt d'Instagram aussi, qui est beaucoup travaillé par Juliette, qui est chargée de communication, et Thelma, qui est en service civique, c'est les relais, en fait. Et c'est ça qui est super intéressant avec Instagram et qui permet d'aller toucher des publics, enfin des personnes qui ne sont pas forcément encore des publics, mais différentes, qui vont avoir accès à notre information, mais par le biais d'autres réseaux qui sont suivis. Donc, par exemple, on parlait du rap, il y a pas mal de comptes rap dans la région qui sont assez suivis, ou de médias rap qui sont assez suivis, avec qui on va travailler pour relayer les informations. Et aussi, surtout, sur Instagram, ce qui est l'enjeu numéro un et qui n'est pas toujours simple, c'est d'être relayé par les artistes. Parce qu'en fait, les personnes qui vont venir voir des concerts à la Cave aux Poètes ne vont pas nécessairement suivre le compte de la Cave aux Poètes. Mais par contre, vont avoir connaissance de l'événement parce que l'artiste qui est suivi va partager quelque chose. Et ça, c'est un gros enjeu parce que c'est pas toujours facile d'amener les artistes à communiquer spécifiquement sur chaque date. Mais en tout cas, c'est un enjeu qui est beaucoup travaillé de notre côté. Et après, sur les réseaux, on a forcément, il y a TikTok, on est obligé d'en parler, mais ouais. La complexité avec les réseaux sociaux de manière générale, mais TikTok en est un bon exemple, c'est que en fait, il y a une démultiplication des canaux et c'est pas les mêmes formats, c'est pas les mêmes manières de s'adresser, c'est pas les mêmes trends, c'est pas les mêmes discours, c'est pas les mêmes codes. Et à la fois, il faut s'en saisir vite et en même temps, il ne faut pas être has-been en les utilisant parce qu'il y a des fois ça des structures pas. Qui sont has-been sur TikTok et c'est vraiment hyper malaisant. Et là, c'est horrible, c'est pire que tout. Nous, on a eu en fait, le compte TikTok de la CAV a été travaillé en premier lieu par une service civique qui était utilisatrice de TikTok et qui finalement connaissait les codes, les trends, et qui a fait des vidéos qui sont en accord avec les trends. Mais en fait, ça demande un taf monstrueux, quoi, de veille, d'y être tout le temps. Et c'est sûr que quand on n'est pas dessus constamment, on comprend pas comment ça marche. Et donc voilà, c'est difficile à, c'est pas évident à mettre en place. D'autant plus que la difficulté avec TikTok notamment, c'est que c'est un peu moins le cas avec Instagram, mais c'est un réseau social qui fonctionne par de la mise en avant d'une personne, c'est-à-dire du selfie ou de voilà. Et dans les salles, les chargés de com n'ont pas tous envie de parler à la caméra en faisant la promo du lieu, donc ça, il y a une espèce parfois d'inadéquation entre les formats et ce que nous on propose, alors qu'ils sont pas impossibles. Hein, je pense qu'il y a plein de choses à imaginer. Mais voilà, faut creuser, quoi, et prendre le temps de le faire, ce qui n'est pas toujours donné le temps et les moyens aussi, puisque évidemment la question de la sponso, etc., qui rentre en jeu sur les réseaux sociaux.
Toi, Alex, est-ce que tu...
Non.
Tu n'es pas sur TikTok ?
Non, on n'est pas sur TikTok. Parce qu'en fait, on n'est pas dans une, on n'a pas ce public-là. En fait, les étudiants partent étudier ailleurs, et ceux qui sont de cette génération et qui restent, en fait, c'est ceux qui n'ont pas pu partir, quoi. Voilà, grosso modo. Donc, ça leur parle pas beaucoup. Par contre, on essaye d'avoir tous les canaux de communication parce qu'on se dit qu'en fait, même des choses qui sont complètement has-been, en tout cas sur le territoire où je suis, fonctionnent. Enfin, coller une affiche fonctionne, parler dans la presse locale fonctionne, parler à des gens fonctionne encore mieux que tout. Voilà. Mais en fait, ça a une vraie puissance dans un territoire qui est pas dense. En fait, le bouche-à-oreille a une importance fondamentale. Et puis, il faut qu'on soit cohérent si on est dans une logique où on veut essayer que les gens ne viennent pas pour le nom de l'artiste. En fait, on est obligé de travailler la marque en gros avec le message un peu redondant de « c'est cool, les mecs sont sympas, leurs bières sont trop bonnes, on peut traîner jusqu'à 2 du mat ». Enfin, voilà, on est dans un mood qui est assez sympa, et c'est ça qu'on vend plus que le reste. Donc du coup, on n'est pas sur la même stratégie.
Vous êtes tous les deux, oui, voilà, sur des structures complètement différentes, avec des publics complètement différents, donc...
Okay. Ouais, des territoires aussi complètement différents. Nous, sur la métropole lilloise, il y a tellement d'offres,
oui,
de concerts.
L'enjeu, c'est de ressortir de la masse.
Voilà. Après, je suis assez d'accord avec toi sur le côté essayer de développer un attachement avec le lieu, une image du lieu, mais c'est sûr que c'est compliqué. Nous, sur le... Non, mais j'en parlerai peut-être plus tard.
Non, mais vas-y, je t'en prie.
Non, je disais sur la communication, nous, on a fait le choix de passer à une com d'arrêter la com papier en fait, quasi. En gros, on a des affiches qui sont des affiches QR code, mais on n'a plus de flyers comme ça se fait souvent avec la prog, etc. Okay. C'est parti de plusieurs constats, déjà de sondages avec le public où en fait la plupart des gens qui se renseignent sur le, enfin qui prennent les infos le font sur internet, de
coûts, j'imagine, aussi.
De coûts, évidemment, d'une question écologique où en fait on se rendait compte qu'on se retrouvait à jeter des tonnes et des tonnes de flyers et de papier, et aussi d'une surenchère sur la métropole de quand on va coller des affiches et quand on va mettre des flyers, ben en fait trois jours plus tard il y en aura deux tonnes de plus par-dessus, deux couches de plus par-dessus, et qu'en fait du coup c'est un gâchis d'argent et de papier pour finalement assez peu d'efficacité. Alors c'est un test, ça ne veut pas dire qu'on ne le fera plus jamais, mais en tout cas c'est un test qu'on met en place cette année. Donc là c'est un petit peu difficile d'avoir des retours parce qu'on a un trimestre blanc là actuellement et qu'on a démarré en septembre. Donc on va voir un peu au fil des mois comment ça se développe, mais c'est pas une solution magique, c'est plus une expérimentation. Mais justement la problématique avec ça, c'est que toute la partie visuelle, identification et image du lieu qu'on essaie de défendre, elle est plus présente, puisque à côté de ça, les autres lieux ou les autres structures ont une charte graphique qui est présente partout, tout le temps. Et qui du coup marque les esprits dans l'idée que ça existe.
Oui,
Est-ce qu'on se bat à coups d'affiches à Château-Thierry?
Ah non, mais je me marrais parce que je me disais, je revoyais quelqu'un qui nous a engueulé ce matin parce que on veut absolument que les gens prennent leurs trucs en CB, etc. Alors je me disais les QR codes, les machins. Je pense qu'il y a certains de mes spectateurs, ils vont me dire mais de quoi tu me parles? Voilà. Non, c'est vraiment rigolo parce qu'il y a des gens qui sont vraiment, enfin, il y a quand même des gens très très éloignés de ça, quoi. Mmh. Voilà. Tout simplement.
Et même chez les jeunes, là, sur notre sujet spécifiquement ce soir, sur la Gen Z, qui sont pas...
Oui. Et puis tout le monde est... Enfin, voilà.
C'est pas homogène. Hein.
Non, c'est loin d'être homogène, je pense, la Gen Z, parce que... Ce que tu disais, pardon, je te tutoie. Mais c'était... Je tutoie un écran.
on te parle, Loïc.
Non, mais il y avait... Finalement, c'est une question d'âge, et je me dis, mais... la Gen Z de, je sais pas moi, de Paris 5e arrondissement, oui, ou de la banlieue lilloise et la mienne, ils ont le même âge, mais ils ne vivent pas dans le même monde du tout.
Non, mais c'est pour ça que je mettais des pincettes sur ce concept, parce que les études marketing qui emploient ce terme, c'est aussi ça qu'elles essayent de vendre. C'est un groupe de consommateurs et de consommatrices unifiés, alors que c'est pas du tout le cas. Sans vouloir faire le sociologue de service, les inégalités sociales, de genre, d'endroit où on habite et tout ça, donc, comment je pourrais les décliner. Et puis en plus, je trouve que c'est bien, c'est important à ce moment-là d'insister là-dessus. C'est que je pense aussi que ces réseaux sociaux vendent la promesse d'un public unifié auquel il suffit de faire un poste pour parler à tout le monde et que tout le monde verra ça. Et pour être vraiment sûr, en plus, c'est encore mieux si tu payes. C'est quand même le business model. Et je pense que c'est important de remettre ça en question. Tout en partageant effectivement les difficultés aussi, ces réseaux sociaux qui sont de plus en plus orientés sur la vidéo, l'image, ben c'est clair qu'en termes de coûts de production, c'est pas du tout la même chose. Et peut-être que c'est, quoi, je trouve en tout cas l'expérience de tester d'autres manières de communiquer, elle est nécessaire et il faut explorer des voies là autour. Ce qui m'a aussi frappé dans les discussions qu'on a eues autour de la production du rapport, c'est l'absence aussi des fois de relais, justement, comme tu le disais, qu'un certain nombre de magazines, d'acteurs médiatiques qui étaient importants pour faire de la promotion autour de la musique ont disparu et connaissent aussi des difficultés pour toucher des publics plus jeunes. J'éviterai de mentionner des noms pour ne pas être désobligeant. Mais voilà, du coup, il y a un peu un écosystème aussi médiatique à recomposer d'une certaine manière.
Complètement. Sur, du coup, on va engager le dernier chapitre de cette conversation qui va être particulièrement sur la programmation et tu me donnes une bonne transition, Loïc. Donc il y a la médiatisation, mais on se rend compte que les salles de concert, elles n'ont plus avoir le monopole de faire découvrir des artistes. Bon, ça fait quelques années, mais c'est assez prégnant. Comment on découvre les artistes aujourd'hui quand on est programmateur? Voilà, je vais encore faire des grandes suppositions, mais on pourrait dire que les jeunes, pour reprendre cette dénomination, vont découvrir les artistes via les réseaux sociaux, via aussi la prescription entre amis, etc. Mais finalement, avec les journaux musicaux qui ont perdu vraiment de la vitesse et l'essor des réseaux sociaux, on a aussi cette image où les TikTok créent des trends où un artiste est propulsé en trend, et donc voilà, est-ce qu'on le programme, est-ce qu'on le programme pas, enfin voilà, comment toutes ces questions, je vous ai fait un pot-pourri de questions, comment on programme quand on est programmateur en 2024 tout simplement, et comment on essaye d'être au plus proche de ce que voudraient les jeunes
comme on peut déjà dans un cadre contraint, faut peut-être le dire aussi, il y a un cadre économique contraint, je pense que je sais pas, celui qui a eu la bonne idée de regarder Colors et de voir Yamé il y a 3 mois et qui veut le faire aujourd'hui, ben, good luck, je pense. Donc il y a cet aspect-là. Après, il y a l'aspect, je peux vous dire ce en quoi on croit aussi, oui. C'est de se dire qu'il y a une partie qu'il ne faut pas qu'on programme, parce qu'on ne saura jamais le faire, et qu'idéalement, il faut arriver, alors ça, c'est plus difficile, je crois, à être pour eux à ce qui se passe à l'extérieur. Ce qu'on faisait très bien il y a 20 ans, des centres sociaux, des maisons de quartier, des gens, voilà, tous ces gens qu'on a supprimés parce qu'il fallait faire des économies et qu'il valait mieux des caméras de surveillance. Non, mais en fait, la porosité, c'est ça, en fait, c'est qu'est-ce qui émane du sol, quoi. Que ça soit enfin, l'électro, le hip-hop, voilà. C'est en fait ça qu'il faut arriver à capter. C'est pas des noms, en fait, c'est des vibrations. En fait, c'est quelle est l'énergie du moment. Et surtout, ne pas vouloir la comprendre avant de la programmer. En fait, la programmer et puis se dire... Enfin, moi, je vois plutôt ça comme ça. C'est-à-dire que l'apport qu'on peut avoir, c'est de dire, ben, nous, on a des murs, on a un peu de sous, on a des moyens techniques, et vous, vous avez cette énergie que je ne comprends pas très bien, mais je suis payé pour l'accueillir. Voilà.
Moi, je suis hyper d'accord... Je suis hyper d'accord avec l'aspect porosité où il faut avoir un peu des yeux et des oreilles partout. Et pour ça, justement, pour moi, la prescription aujourd'hui, bon, moi, ça fait pas du tout longtemps que je suis programmatrice, donc je sais pas vraiment comment. Enfin, je parle avec du coup 2 ans d'expérience, mais en tout cas, j'ai l'impression que mes yeux et mes oreilles, ils sont à des endroits qui sont parfois super surprenants, quoi. Ça va être autant un média rap sur Instagram ou un média électro sur Instagram que mon frère qui a 20 ans et qui va m'envoyer un truc que fait son pote que j'ai jamais entendu, ou une discussion au bar où je vais entendre quelqu'un à la table d'à côté qui parle de telle soirée dans tel endroit. Enfin, il y a vraiment un truc comme ça d'essayer de sentir un peu les choses. Et après, évidemment que rien, enfin, on peut pas tout faire. Et voilà, mais je pense qu'il y a il faut essayer de trouver l'endroit de découverte et de nouveauté qui est en accord avec notre territoire et nos contraintes. Ce qui, nous, pour le coup, et sur la cave aux poètes, on a autant des grosses contraintes que des gros avantages. des grosses contraintes économiques, techniques, de mobilité, etc. Mais aussi un avantage qui est d'être dans une métropole, d'être un lieu accessible au métro, voilà, et qui nous permet d'aller parfois sur des risques et de l'émergence, et c'est notre métier. Et donc sur cet aspect découverte-là, la prescription, ouais, elle se fait à plein d'endroits. Et après, pour revenir sur ce que tu demandais sur l'aspect buzz TikTok, est-ce qu'on programme, je pense que c'est super difficile en fait de répondre à cette question parce que aucun cas n'est similaire. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui sortent de nulle part, qui ont énormément de streams, qui vont remplir des énormes salles super vite parce qu'en fait il y a une communauté qui a envie de les voir en live, qui se fédère, etc. Et exactement la même situation, mais personne va venir parce qu'en fait c'est un phénomène qui est très lié à un instant T, et c'est super difficile de savoir du coup ce qui va fonctionner ou pas. Et des fois voilà, il y a des choses bizarres comme ça où il y a un nombre de streams monstrueux et en fait il y a personne.
Parce qu'il y a pas de succès TikTok garantit pas le succès en salle.
Non, loin de là. Non, je pense pas. Je pense pas. Et il y a plusieurs exemples comme ça, mais comme des exemples inverses en fait. Donc c'est pour ça que là-dessus c'est assez complexe. Et sur la partie découverte, donc même si la partie streaming, réseaux sociaux, elle est quand même super importante. Les playlists, moi je travaille beaucoup avec Spotify sur les playlists, les artistes similaires, ça donne quand même pas mal de choses à creuser. Mais là où nous, je pense, tu me diras Alex si t'es d'accord avec moi, mais on s'appuie beaucoup sur les tourneurs, donc les organisateurs de tournées qui s'occupent des artistes et qui eux vont développer des tournées, donc vont avoir des sensations plus précises sur un concert organisé puisqu'ils vont booker plusieurs dates, ils vont savoir un peu plus ce que ça vaut. Donc là l'échange avec eux est important à cet endroit là Et là où on retrouve du coup notre problématique de tout à l'heure, c'est que les tourneurs, il y a des tourneurs spécialisés sur le rap et sur l'électro, mais c'est quand même moins développé que d'autres esthétiques musicales, et notamment moins développé sur l'émergence. Et donc, quand on veut faire un projet rap, par exemple, on se dit « Ah ok, ça c'est pas mal, je sens que ça prend, ça peut faire du monde, c'est encore assez petit pour mon lieu, ça va faire du monde », et en fait, il n'y a pas de tourneur. Donc, on doit écrire au manager sur Instagram. Et là, on est... ou à l'artiste directement. Et là, on a aussi un endroit de divergence dans les pratiques, qui est que nous, on a une pratique qui est très professionnalisée maintenant, structurée, où on a besoin d'envoyer une confirmation par mail, de faire un contrat de travail, voilà. Et en fait, quand on va discuter avec un manager sur Instagram, qui certes veut le meilleur pour son artiste, hein, mais et pas assez de professionnalisation. Voilà.
Il n'y a pas la professionnalisation encore.
Tout à fait. Et c'est le cas pour le rap, mais pas que pour le rap, en fait. Enfin, pour d'autres, pour l'électro, ça peut être le cas aussi, même si c'est quand même beaucoup sur le rap. Mais du coup, c'est là que parfois le décalage fait dans la découverte, quoi.
J'ai l'impression qu'Alex, tu as des bonnes anecdotes à ce sujet.
Oui. En fait, j'ai travaillé dans une salle en banlieue parisienne où on faisait énormément de rap, et du coup, on discutait avec les gens de cette équipe, on s'est croisés à Nantes là il n'y a pas longtemps. Et du coup, on se marrait parce qu'on s'est dit, quand même, on pourrait remplir 25 stades de France sur la programmation qu'on faisait, alors qu'on a pris des tôles incroyables, qu'on a eu des artistes qui ne sont pas venus. Enfin, voilà, je ne vais pas donner leur nom parce que maintenant, ils sont trop célèbres, ils vont me faire des procès. Mais voilà, enfin, je me disais, ah, quand même, on faisait Val, Orelsan, Lombal, Big Floyoli et tout. Enfin, c'était la fête, quoi. Et pour la moitié d'entre eux, effectivement, il n'y avait pas d'entourage. En fait, moi ça me pose quand même question en fait, ce truc qui a été raté finalement. Enfin, globalement.
Est-ce que c'est un fil à tirer pour les petites salles justement d'accompagner dans la professionnalisation sur ces métiers-là, plus que au-delà du métier d'artiste.
Bien sûr. L'autre question c'est.
Vous mettre à leur niveau.
Non, mais est-ce qu'on est capable de. Enfin, un des problèmes, je regardais un mail qui passait tout à l'heure où des collègues se disaient on cherche des coachs, en gros, pour accompagner des projets de rap. Et du coup, je me dis, c'est quand même marrant qu'on soit quand même en 2025 et que les gens, c'est la musique majoritaire, ils connaissent pas quatre gars qui pourraient intervenir sur le sujet. Voilà, il y a quand même un truc. Voilà. Et je raconte une autre connerie. Je raconte une autre connerie, mais on avait été à un congrès de la Fédélima avec un artiste qui s'appelle JP Manova. Et je me souviens qu'on l'interrogeait, et le sujet de la table ronde, c'était comment on fait une résidence rap. Déjà, c'était curieux, quoi, pour lui, en disant bah, un peu comme les autres. Et je me souviens, il s'était fait poser des questions pendant peut-être 7-8 minutes, où tout le monde lui posait des questions sur tout, sauf sur la musique, sur pourquoi il composait comme ça, pourquoi il faisait ses morceaux comme ça. Donc on lui demandait, ouais, comment ça se passe, et toi, et avec le quartier, comment tu te débrouilles. En fait, son rôle de travailleur social, on ne lui parlait pas du tout de musique. Et cette... ça aussi, on le paye cher, en fait, de jamais avoir discuté de musique avec cette scène pendant 10 ans. Ben voilà, je crois qu'on le paye cher, même dans les cachets.
Loïc, est-ce que, comme je te vois à l'écran, mais que c'est un peu compliqué pour toi de nous interrompre, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce sujet, sur le sujet de la... Il me semble d'ailleurs que vous en parlez aussi dans ce travail du CNM, la professionnalisation des artistes, et aussi ces artistes qui arrivent, voilà, il y a un buzz qui leur tombe dessus, et ils n'ont pas l'entourage, en effet, ils n'ont pas la structure autour pour les accompagner, donc le dialogue est rapidement difficile avec les salles.
Oui, puis ça a été dit, ils ont, des fois ils ont aussi un entourage qui n'est pas fait pour aller jouer dans ce genre de salle, parce que ce n'est pas la stratégie, parce que ça va trop vite, quoi. C'est quelque chose qu'on peut voir pour plein de sujets, mais que les réseaux sociaux, quoi, il y a un phénomène de diffusion des choses qui est quand même plus rapide, et qui fait que, ben, on en parlait tout à l'heure, le schéma un peu rock indé, on fait des petites salles, puis des plus grandes, etc. Ben, et là, il est complètement renversé. En plus, effectivement, des milieux qui, je pense, de ce que j'ai pu discuter avec différentes personnes, il y a cette forme de division, peut-être aussi qu'un certain nombre d'acteurs, après avoir essayé de vendre des concerts et puis finalement devoir les produire, ben maintenant ils produisent ces concerts et puis ils n'ont plus besoin de salles pour le faire parce qu'eux-mêmes ont leur structure.
On va voir déjà, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou bien en live, Léa, non ? Questions ? Tu forces les gens à poser les questions ?
Il y a plein de jeunes différents et je pense que parmi la Gen Z, nous, ce qu'on voit en tout cas de l'expérience que j'ai à la cave, c'est que sur certains concerts de rap, on a des jeunes qui reviennent à chaque fois et qui, quand ils en parlent en fumant une clope dehors, ils disent « Ah ouais, tu vas voir machin la semaine prochaine et tu vas voir truc et tu vas au paradis artificiel et tu fais ci et tu fais ça. » Et on voit que c'est des jeunes qui font des tonnes et des tonnes de concerts de rap parce que voilà. Donc je pense qu'en fait il y a des catégories ou des jeunes qui sortent beaucoup et qui vont voir beaucoup de concerts, pas que de rap d'ailleurs, hein, parce qu'on parle depuis tout à l'heure du fait que les jeunes vont voir du rap, mais il y a plein de jeunes qui vont voir aussi d'autres choses que du rap. Et donc je pense que c'est assez difficile de dire que les jeunes sortent moins, peut-être qu'ils sortent différemment et que c'est peut-être que ça s'est un peu polarisé aussi entre, alors je m'avance en terrain complètement inconnu, hein, mais entre des villes qui sont très fournies en lieux culturels et en offres, que ce soit de SMAC ou d'événements gratuits, ou voilà, et des territoires soit plus en périphérie, soit plus ruraux, où là, pour le coup, c'est beaucoup plus compliqué. Et sur le côté festival, effectivement, je pense que il y a aussi une optimisation parfois de dire quitte à mettre un gros billet.
Après, je pense qu'ils sortent plus parce que l'offre, elle est devenue XXL. Enfin, je pense qu'il y a 30 ans, il y avait quand même moins d'offres. Voilà, tous azimuts, même si, voilà, si on prend pas des temps trop courts parce qu'il y a toujours des creux de vagues, des cafés-concerts qui disparaissent, etc. Mais globalement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de possibilités que moi j'en avais étant gamin. Enfin, je veux dire, c'était assez limité le nombre d'endroits où tu pouvais aller voir des concerts. Il fallait que tu fasses beaucoup de distance et que tu prennes plusieurs bus, quoi. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une offre assez importante et pas mal de gens qui sortent, en tout cas. Et je pense que les propositions, en plus, elles sont multiples. Enfin, l'avantage d'être vieux, c'est que moi, j'en avais moins. Là, on peut aller voir plein de trucs et pas que de la musique.
Avec de plus variés. Oui.
Bah, on peut aller sur tout un tas d'événements, on peut aller dans plein d'endroits, l'offre s'est démultipliée.
Je suis désolé, moi j'ai pas entendu la question.
La question, c'était de savoir si les jeunes sortaient moins. Simplement, est-ce qu'on pouvait constater le fait que les jeunes sortaient moins ?
Pendant les chiffres qu'on a pu récolter, comme c'est pas du tout flagrant, hein, c'est comme je le disais en introduction. Par contre, il y a quelque chose, notamment sur les concerts, qui est très, très clair. C'est que dans les années 70, ceux qui allaient voir des concerts, notamment dans les catégories du ministère de la Culture, qui est variété, rock, etc., c'était exclusivement des groupes jeunes, ou très majoritairement, alors que maintenant, toutes les tranches de la population, à part peut-être vraiment les plus de 60, 70 ans, vont voir des concerts. Donc il y a ce que les gens qui travaillent pour le service statistique du ministère de la Culture appellent un tassement des pratiques ou une diffusion à toutes les générations. Ça, par contre, c'est très clair. Après, l'inverse, qu'il y a une baisse de fréquentation, ça, c'est beaucoup plus difficile à montrer, ce qui ne veut pas dire que ponctuellement, en regardant les fréquentations spécifiques à des lieux, il ne peut pas avoir des phénomènes comme ça.
Léa, tu as une question du public?
Alors, on m'entend bien? Ouais, ouais, parfait. Alors, j'ai une question de Louise qui se pose une question sur le format. Qu'en est-il de la fréquentation des festivals? Et Alexis qui rebondit là-dessus en se demandant si les festivals ne gagnent pas finalement la bataille, car ils proposent des événements qui durent sur la longueur avec d'autres propositions, restaurants, animations diverses, que simplement le concert.
Ouais. Ce que tu disais vouloir faire à la biscuiterie, enfin, le côté lieu vivant qui propose autre chose que le concert, c'est vrai que le festival...
Après, je ne sais pas, j'ai pas les études, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup, enfin, même s'il y en a qui meurent, les gros festivals cartonnent. Voilà. Et je pense que ça correspond aussi à une tendance que j'arrive pas à analyser, mais qui ressemble à une envie de foule, en fait. Moi, on m'a traîné voir un concert au Stade de France, ce que j'avais jamais fait, et pour moi, c'est une expérience hyper bizarre, c'est-à-dire que c'est pas un concert pour moi. En fait, j'entends... déjà, il n'y a pas de pression acoustique, on est hyper loin, les gens sont hyper petits. Enfin, et pourtant, c'est plein et les gens ont l'air d'adorer ça. Donc, je sais pas si les festivals ont gagné, mais en tout cas, j'ai l'impression que les trucs gros, les trucs très... les shows à l'américaine, Super Bowl, machin, j'ai l'impression que... En fait, le marketing, quand même, c'est ça l'image du concert que la majorité des gens ont en tête, j'ai l'impression. C'est ces gros trucs, c'est Beyoncé sur scène, c'est pas les futurs Cure à la cave aux poètes, quoi. Dans l'imaginaire, hein, voilà.
Si je peux me permettre, on discutait tout à l'heure des questions d'espace médiatique. Je pense que là, c'est aussi important, c'est que ces acteurs-là créent une nouvelle équipe pour communiquer sur le dernier réseau social à la mode et faire des vidéos. En général, ils ont les moyens financiers et en ressources humaines pour le faire, en tout cas beaucoup plus facilement qu'une petite salle de 200 personnes.
Voilà, on peut rebondir sur ce qu'on discutait à 3. Live Nation a quand même annoncé avoir fait x2 en revenus par rapport à 2019 et plus 35%, je crois, par rapport à 2023. Donc les gros se portent bien.
Avec le fonds souverain d'Arabie Saoudite, tout va bien.
Est-ce qu'on a d'autres questions? Ah, en salle, on a une personne. Tu lances? C'est fait pour.
Oui, ben bonjour, merci. Moi, c'est Antoine. Du coup, la petite question, c'est pour le lien avec la communauté. Du coup, on va essayer de faire la passerelle pour les amener au live. Est-ce que, justement, il y a des tendances, notamment peut-être avec des statistiques, sur le fait que les plus jeunes, du coup, les Z, sont plus intéressés par juste l'audio, la vidéo, c'est-à-dire clip, ou alors est-ce que c'est l'aspect plutôt... on apprend à connaître les personnes, lifestyle, etc. Quelle est un peu la tendance et, ou alors j'imagine bien entendu que c'est tout, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont plus évidentes?
Est-ce qu'il y a des choses que vous constatez, vous, dans des artistes que vous...
Ben moi, il y avait ça dans les questions quand on préparait. Dans les expériences marquantes, en fait, il y a un streamer qui s'appelle Ponce. Et qui on avait fait un truc l'année dernière. En fait, lui, il vient plutôt du monde du jeu vidéo. Il voulait lancer son label. Et donc, il a fait une annonce dans un événement de jeux vidéo. J'ai pas tout compris. Hein.
Sur Twitch.
Sur Twitch, évidemment. Et en fait, l'idée, c'était qu'il présentait son label et il invitait sa communauté à se transformer. D'ailleurs, des gens du jeu vidéo viennent au Bataclan voir un concert pour trois groupes inconnus. Et en 15 jours, c'était plein. Et là, il n'y avait pas de nom. Alors, je ne sais pas à quel niveau c'est reproductible, mais ça veut dire que la nature du lien qu'il a généré avec son audience, qui est un lien particulier, je crois, dans le monde du jeu vidéo, il a réussi à le transformer dans un autre domaine. Moi, ça m'a fasciné. Je me suis dit, waouh, la puissance du truc, quoi. Mais ça ressemble aussi à un moment où... Alors, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, mais il y a un moment où des gens plutôt de l'univers de la musique ont signé des youtubeurs en se disant... je ne sais pas comment je vais transformer leur audience, mais je vais la transformer. C'est-à-dire qu'ils avaient des contrats, c'était même pas des contrats d'artistes pour faire de la musique, ou des contrats de one-man show, ou des contrats d'acteurs. En fait, ils signaient des contrats avec des gars juste sur la puissance de l'audience qu'ils avaient, sans métier. Voilà. Donc, du coup, il y a quelque chose comme ça, en tout cas, que je trouve assez fascinant. Que je ne comprends pas tout à fait comment ça marche, mais je trouve ça fascinant.
Non, nous, dans les expériences qu'on a récoltées avec le CNM, il y avait aussi des festivals qui, par exemple, ont noué des collaborations avec des youtubeurs ou des gens actifs sur les réseaux sociaux qui venaient alors non seulement se mettre en scène, comme on pourrait l'imaginer, dans le festival, mais faire aussi des choses, des événements ponctuels. Par exemple, quelqu'un qui est très connu pour faire des reprises... au piano, hein, comme il y en a certainement plusieurs, avait un stand mobile dans le festival pour où il reprenait des musiques des artistes du festival. Donc je pense qu'il y a des liens à nouer. Alors je comprends aussi qu'on puisse être un peu récalcitrant à les nouer, mais il y a aussi des choses qui peut-être sont intéressantes, des productions de format qui collent avec l'esprit de certains lieux, et puis là, il peut peut-être avoir des manières de faire venir Internet aussi dans les salles de concert ou les festivals, d'une certaine manière.
Est-ce qu'on prend une dernière question ? Léa, t'en as une ? Relancer. Romain, tu te tiens prêt ?
Merci. Alors, une question de Elicia qui se demande ce qu'il en est de la sécurité pour le public dans tous les sens par les salles. L'accueil des minorités de genre, par exemple, des réflexions sur les toilettes non genrées, prévention, etc. affichées. Et Louise, qui est dans le chat aussi, rebondit en se demandant est-ce que cette génération, elle se sent bien représentée dans la programmation en tout ce qui concerne l'inclusivité ? Dans l'histoire des musiques actuelles, les changements sociaux ont été très liés à la création musicale et aux différentes esthétiques. Est-ce que dans nos salles actuellement, on représente bien la réalité sociale de cette génération dans leur programmation ?
Je veux bien rebondir là-dessus. Oui. Effectivement, nous, on a mené plusieurs projets autour des questions d'égalité, d'inclusivité, d'égalité des genres au sein de la Cave aux Poètes, notamment par des expérimentations aussi. On a une artiste associée avec qui on travaille qui s'appelle Lo, qui a organisé des clubs queer, donc avec des programmations d'artistes queer qui se revendiquent queer, mais pas forcément dont le propos n'est pas nécessairement militant, même si bon, il y avait certains artistes qui étaient militants. Et c'est vrai que ça fait partie d'une politique de programmation au global, c'est-à-dire que notre objectif est d'être dans la diversité esthétique et dans la représentation. Et effectivement, ces enjeux-là, on ne peut pas passer à côté aujourd'hui de représentation sur scène, que ce soit des minorités de genre, de la diversité. Alors ça ne veut pas dire que c'est pris en compte par tout le monde et que c'est facile, parce qu'il y a énormément d'enjeux qui sont soulevés. Mais en tout cas, je pense que c'est super important. Alors, en tout cas, je sais que nous, sur les jeunes qui fréquentent la Cave aux Poètes, c'est super important, c'est regardé. Et le fait qu'on ait une campagne d'affichage anti-violence sexiste et sexuelle, anti-discrimination, c'est super important pour les personnes qui fréquentent la Cave. Alors, pas que pour les jeunes, évidemment. Hein. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont regardées. Et par exemple, il y a des choses, je pense qu'il y a des choses aussi intéressantes à penser qui, pour le coup, nous viennent aussi des artistes. Mais on avait fait un artiste l'année dernière qui s'appelle Saint Graal, qui a un titre qui a été joué dans le spectacle Drag Race France et qui, sur ses concerts, invite une drag queen de chaque ville dans laquelle il joue. Et en fait, c'est super intéressant parce que du coup, ça mélange des publics qui viennent le voir, lui, parce qu'ils écoutent sa musique, des publics plutôt du milieu du drag, qui est super actif, en plus, à Lille. Donc du coup, c'est des croisements aussi qui sont super intéressants artistiquement dans les publics que ça sollicite. Donc effectivement, ouais, c'est un enjeu majeur des lieux à tous les niveaux.
Et justement, dans ces soirées queer, est-ce qu'il y avait du monde? C'est ce que demande Alicia.
Ouais, franchement, ça, c'est des événements qui ont bien fonctionné. Après, l'enjeu est toujours de la même manière que sur des nouvelles choses qu'on peut être amené à développer. C'est que généralement, il y a un temps long. C'est-à-dire que bon, on a fait du monde, on a fait entre 100 et 150 personnes sur une jauge de 200, ce qui est tout à fait correct pour des premières expérimentations, mais où on sent que pour que ça prenne, il faut du temps, il faut des relais, et des relais, ça se construit. Et voilà, quand on part un peu de nulle part, bah forcément, il faut s'adresser à des associations, à des collectifs, à des médias, et c'est un gros travail derrière pour que ça prenne. Mais en tout cas, c'est si on s'adresse aux bonnes personnes et aux bonnes expertises, ça fonctionne, quoi.
Merci. Je pense qu'on va terminer là. Ça fait plus d'une heure qu'on discute. C'est passionnant. On peut bien sûr continuer autour d'un verre. Loïc, tu ne vas pas pouvoir nous rejoindre, mais merci de ta venue. Merci Manon. Merci Alex.
Merci.
Je vais en profiter juste pour vous parler rapidement de la programmation Music Tech qu'on aura pour PIX qui se déroule fin mars. En régie, je pense que vous pouvez remettre la présentation où je vais pouvoir vous montrer rapidement, et je vous ai même fait un magnifique QR code, et je pense que c'est un sujet qui va intéresser le public qu'on a ici, même si on est relativement peu, mais qui peut aussi intéresser sur le chat. On fait un sujet avec Walifornia Music Tech, qui est un incubateur liégeois qui incube des projets music tech, qui va être sur comment les technologies décuplent ou entravent les émotions du live. Donc là, on va être sur un sujet complètement tech. On aura notamment Jasna Rock Lab, qui est une start-up qui crée des vêtements scéniques et qui travaille l'expérience musicale à partir de ces vêtements. On aura aussi le programmateur directeur du Reflector et de l'OM à Liège, en Belgique, qui va nous parler de comment naviguer dans l'ère numérique quand on est une salle de spectacle, et aussi la Commission européenne qui nous parlera de toutes les initiatives européennes qu'elle peut mettre en place et comment elle encourage l'innovation numérique. Voilà, c'était l'instant publicité, et on a deux autres conférences, tout ça c'est le 28 mars, une où on accueille IRCAM Amplify, là on n'est plus du tout sur la question du concert, mais sur la question du son. IRCAM Amplify, qui est une entreprise tech qui propose du couplage avec des API pour faire notamment du son immersif. Et Jean-Luc Biollet, qui est le fondateur Music Story, que vous connaissez bien pour ceux qui sont à la pleine image, puisque Music Story, c'est notamment notre partenaire sur la programmation Music Tech, et qui nous parlera de comment on s'exporte, comment on lève les freins, notamment psychologiques, à l'exportation, et comment eux, ils ont réussi à intégrer des marchés réputés difficiles comme la Corée du Sud et le Japon. Voilà, tout un programme. Je vous remercie pour votre présence, et puis je vous propose de passer directement à l'apéro, qui est juste à côté. Merci Alex, merci Manon.
Merci à toi.
Et merci Loïc, si tu es encore là.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Bonne soirée.